Huitième jour avec Claire Bressolet. Huitième jour avec Claire Bressolet.
Le dormeur du Val, vous avez tous appris cette poésie ou au moins écouté cette poésie lorsque vous étiez au lycée ou au collège. Arthur Rimbaud, les cahiers de Douai, 1870, en plein symbolisme. Oh, c'est magnifique. Allez, je vous le relis. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud, dans ce sonnet, montre qu'il est un grand poète. Oui, oui, avant même de faire un sonnet antimilitariste, il montre qu'il est un grand poète. Comment ? En reprenant une forme fixe, celle de deux quatrains, de deux tercés, reprenant des rimes embrassées dans les quatrains et une chute dans le tercé, vous l'avez bien entendu, il a deux trous rouges au côté droit. On a des alexandrins et on est un grand poète comment ? Eh bien, en pipant de l'intérieur la forme fixe et en faisant une forme non pas close, mais ouverte. Alors, écoutons bien, vous l'avez bien entendu, on a ce qu'on appelle des rejets, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Ou le soleil de la montagne fière, lui. Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Et comme ça, vous avez des petits mots qui se retrouvent en début du vers suivant, alors qu'on aurait dû les mettre à la fin, on va dire syntaxiquement, significativement. L'intérêt, c'est que l'alexandrin est coupé, il est cassé. Ah ben, on a un aïeul, c'est le grand Hugo qui dit « J'ai tordu le cou à ce vieil alexandrin », ça c'est en 1830. Là, on est quelques années plus tard, en 1870. Donc, sans romantisme, pas de symbolisme. Mais quel est l'intérêt de casser le verre ou de piper une forme fixe de l'intérieur ? Eh bien, c'est de dire « je vais dénoncer l'antimilitarisme, la guerre et la paix ». Oui, 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 je vais dénoncer les deux. Alors, vous avez compris, l'antimilitarisme est dénoncé de manière évidente. On a dans le premier quatrain une sorte de petit paradis, très bien, la verdure, la rivière, le soleil. Deuxième quatrain, ben, un soldat jeune. Vous remarquez l'adjectif, il est postposé, ce n'est pas un jeune soldat. C'est donc un soldat récemment enrôlé, tout jeune, donc inexpérimenté, donc cible parfaite pour les armes, donc victime potentielle immédiate. Mais oui, ça ne rate pas. On s'approche de ce dormeur. C'est comme un zoom. Il y a des choses un peu bizarres. On nous dit qu'il dort dans le soleil. Un dormeur, c'est plutôt une sieste à l'ombre, sous le soleil, peut-être, mais sinon à l'ombre. Dans le soleil, ça reprend la première strophe et puis on a cette chute. C'est pas un dormeur. C'est un cadavre. La main sur la poitrine. Ah, mais on pense à Napoléon. Mais oui, les batailles napoléoniennes, 1802-1815, on va dire le règne de Napoléon, le Sacre et puis les 100 jours, Waterloo. Ça a été exsangue, les armées napoléoniennes. Une saignée dans la jeunesse française. Souvenez-vous, Musset, Confession d'un enfant du siècle, qui vitupère contre Napoléon et finalement on a volé la jeunesse à toute cette génération-là. Donc on a bien quelque chose qui vient dire le scandale de la guerre, qui vient faucher des vies jeunes. Mais regardons de plus près le sonnet. Je reprends le premier quatrain. C'est un trou de verdure et non pas un coin. Trou, c'est le dernier mot. Il a deux trous rouges au côté droit. On barre du trou vers le trou. Donc le trou, c'est la tombe, la fosse. Ce trou de verdure, ben, c'est peut-être un endroit difficile à passer pour une armée. Il peut y avoir une embuscade, parce qu'on est dans un cirque, ou dans une vallée, tout au moins. Où chante une rivière, ben oui, on y est, c'est idyllique, bucolique, la rivière serpente, gazouille, oh là là, que c'est joli. Mais la rivière qui chante avec cette personnification, c'est peut-être tout simplement la métaphore d'une armée qui avance, qui suit un chemin un peu courbe, et qui est en couleur d'argent, parce que l'arme elle-même est couleur d'argent. Et là, on entend différemment ce paradis perdu, où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Ou le soleil, de la montagne fière, tiens, de la montagne fière, lui. On aurait dû dire sur, ou au-dessus d'eux, mais de la montagne fière. C'est bizarre ce jeu avec les prépositions dans ce sonnet. Eh bien ici, fier, c'est quoi? Ben, c'est l'adjectif du soldat héroïque, du soldat de l'Iliade, de l'Odyssée, hein. Être fier. Et ici, on peut l'entendre comme une apparition d'un éclat ben, d'une lumière sur une arme, et donc de l'apparition d'une autre armée, une deuxième armée qui apparaît en haut, alors que l'armée est en bas. Et du coup, le paradis édénique, idyllique, est transformé en l'angoisse d'une bataille possible. Mais vous imaginez, s'il y a un dormeur qui est un cadavre, il n'est pas arrivé avec une montgolfière. Il y a eu une bataille. Donc il y a une ellipse entre le premier quatrain et le deuxième quatrain. Et s'il y a un cadavre, il y a des chances qu'il y en ait d'autres. On est donc dans un coin qui est un tombeau et qui n'est pas un paradis. Alors que veut nous dire Rimbaud? Pour la paix, pour la guerre? Il veut nous dire que paix et guerre sont indissociables, que la paix est précaire et que la guerre est à nos portes. Ah oui, si tu veux, la paix prépare la guerre. On connaît la phrase de Jules César, mais oui. Paix et guerre indissociables. Eh bien, vous avez un éternel recommencement qui est suggéré ici, à travers cette forme fixe qui, normalement, est close, avec une clôture, une chute. Eh bien, le fait d'avoir décalé les enjambements, les rejets, d'avoir remis ce mot « trou » au début du texte, et puis deux trous rouges au côté droit, qui vraiment... Ah, vraiment quoi? Mais la figure christique. Qu'est-ce qu'il y a un trou rouge au côté droit? La figure christique. Il y a donc peut-être une ouverture qui est explicite, ou plutôt implicite dans le texte, si on le relit en 3D. C'est-à-dire que chaque mot n'a pas une fonction univoque, mais bien métaphorique, c'est-à-dire plurivoque. À la semaine prochaine.